en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Notre invité dans cette émission en habit vert est à la tête de prestigieux projets d'astronomie. Pour vous donner quelques indices sur cette personne, elle a participé au projet VLT, Very Large Telescope, au Chili. Elle a conçu la caméra embarquée sur le satellite ISO pour tout savoir sur la naissance des étoiles. Elle a également joué un rôle éminent dans la préparation du projet de l'ELT, l'Extremely Large Telescope. Elle vit, vous l'avez compris, en permanence la tête dans les étoiles. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir l'éminente astrophysicienne Catherine Cesarski. Catherine Cesarski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici au studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France à Paris. Vous êtes membre depuis peu, membre de l'Académie des sciences dans la section sciences de l'univers. Vous venez de quitter la direction de l'Observatoire européen austral, l'ESO, en 2007. Et vous êtes actuellement présidente de l'Union astronomique internationale, présidente également du comité des programmes scientifiques au Centre national d'études spatiales, en d'autres termes le CNES, également au CEA conseillère scientifique à la direction des sciences de la matière et puis également chercheur associé à l'Observatoire de Paris-Meudon. Pour commencer cette émission, Catherine Cesarski, je vous propose de débuter par une citation, un tout petit peu longue mais quand même très intéressante, d'un article paru dans le journal Le Monde en octobre 2006, le 18 octobre pour être plus précise, un article de Jérôme Fenoglio. Alors cette citation va nous permettre de planter le décor et de cerner un peu plus votre caractère. Catherine Cesarski s'imagine dotée d'un don d'ubiquité qui lui éviterait d'avoir à choisir entre les pays qu'elle a aimés, entre les fonctions qu'elle a embrassées. Il y en aurait une en Argentine qui prolongerait les années de sa jeunesse à Buenos Aires, une en Amérique qui poursuivrait ses travaux d'astrophysicienne dans une université prestigieuse, la française dirigerait des équipes et conduirait des projets, l'européenne dans la banlieue de Munich pourrait ainsi assurer sans regret la direction générale de l'Observatoire européen austral, l'ESO, qui gère notamment le Very Large Telescope dont je viens de parler. Et comme celui-ci se trouve au Chili, une cinquième Catherine Cesarski y ferait des séjours beaucoup plus longs que ceux que son emploi du temps lui permet actuellement. Catherine Cesarski, où sont vos attaches actuellement ?
C'est difficile à dire. Je viens de rentrer à Paris. J'ai déménagé de Munich au début du mois de mars. Depuis que je suis entre guillemets rentrée, sachant que la dernière semaine de février, j'étais à Hong Kong. J'ai passé 8 jours à donner des cours au Népal pour initier des jeunes scientifiques népalais à l'astronomie. Et tout de suite après, je suis allée au Caire pour la première réunion que l'Union astronomique internationale a organisée pour regrouper les gens de cette région, Moyen-Orient et Afrique. Et là, je reviens donc tout juste, mais en théorie, je suis à Paris.
Donc on a la chance de vous cueillir à ce moment. Nous allons évoquer les choses de manière chronologique, si vous le voulez bien. Alors nous parlerons un peu de l'Argentine et bien sûr de la Californie. Vous avez fait vos études également de la France, du Chili. Mais revenons à l'Argentine. Comment vous êtes arrivée en Argentine en 1946 ?
Mon père s'est vu offrir, après la guerre, un poste d'attaché culturel à l'ambassade de France à Buenos Aires. Et comme la situation en France était quand même assez difficile après-guerre, il a décidé d'accepter. Donc il est parti avec sa femme et ses 3 filles. J'étais la plus jeune de 3 filles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Argentine, toute petite. Et j'ai appris à peu près simultanément le français et l'espagnol. Mais j'ai été élevée dans un milieu très français en allant au collège français de Buenos Aires de 5 à 16 ans. J'ai fait toute ma scolarité en français, j'ai un bac français, tout en apprenant à aimer ce pays. Puis quand j'ai fini mon bac, j'étais donc un petit peu en avance, 16 ans, je ne me voyais pas encore quitter la maison familiale. Et après tout, je trouvais que l'Argentine, c'était pas si mal et j'ai décidé d'aller à l'université à Buenos Aires. Alors que les bons élèves du collège français, normalement, allaient faire des études en France, moi j'ai décidé de rester. Et je pense que j'ai bien fait parce que j'étais quand même très bien dans ma famille et que l'université de Buenos Aires, dans ces années-là, était tout à fait excellente.
comment vous entrez dans le milieu de l'astronomie ?
Eh bien, en fait, j'ai fait des études. Au départ, j'ai commencé avec maths et physique en parallèle. Et au bout de 2 ans à peu près, j'ai choisi plutôt la physique. Et ce n'est que vers la 4e année que, complètement par hasard, je me suis tournée vers l'astronomie. Pourquoi par hasard ? Parce que, quand j'étais en 3e année, il n'y avait absolument pas d'enseignement d'astronomie à l'université de Buenos Aires. Il y en avait ailleurs en Argentine, mais pas à Buenos Aires. Et en 4e année, je devais commencer à choisir un sujet qui serait l'équivalent d'un DEA. Et justement, j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, un jeune professeur qui avait fait un doctorat aux États-Unis, qui avait travaillé en Angleterre, a décidé de revenir en Argentine avec sous les bras, en pièces détachées, un radiotélescope que lui avait donné la Carnegie Foundation et qu'il voulait installer dans la banlieue de Buenos Aires.
Donc en pièces détachées ?
En pièces détachées, ah oui, là, vraiment dans des caisses. Et évidemment, il était à la recherche d'étudiants. Et moi, de mon côté, j'avais envie de faire, c'était l'inverse, de faire des travaux plutôt théoriques. Et à l'époque, à l'université de Buenos Aires, ils voulaient que tout le monde fasse des expériences pour le DEA. Et moi, qui avais tout juste quitté les maths, hein, je voulais encore rester devant des ordinateurs ou des papiers et crayons. Et donc, j'ai fait un arrangement avec lui où je pouvais faire une thèse théorique, mais après, par contre, je mettrais les mains à la pâte pour construire le radiotélescope. Donc ça marchait, et je dois dire que nombre de mes amis les plus proches ont suivi. Et on s'est retrouvés dans un petit groupe dont l'homme que j'ai épousé, avec qui je suis mariée maintenant depuis plus de 40 ans, a travaillé sur ce radiotélescope. Donc j'ai fait d'abord une petite thèse sur l'âge des étoiles, qui a été tout à fait passionnante.
Toujours très modeste, une petite thèse.
Ah ben c'est une petite thèse, c'est quand même une petite thèse à ce niveau-là, comme un mémoire de DEA si vous voulez. Et je me suis mis à faire des modèles d'étoiles sur un vieil ordinateur que l'Angleterre avait donné à l'Université de Buenos Aires. Mais enfin, ça m'a permis d'apprendre comment on fait des modèles d'étoiles. Et en parallèle, j'ai fait des choses très importantes sur le radiotélescope, comme par exemple de grimper dessus et de le peindre. C'était quand même un engin qui faisait 30 mètres de diamètre, il me semble. Et il fallait peindre tout ça à l'anti-rouille. Enfin, j'ai fait des choses de ce type-là. J'ai classé des vis et des à n'en plus finir. Et nous avons monté tous les circuits électroniques vraiment à la main.
Donc finalement, vous avez mis la main à la pâte.
Donc j'ai vraiment, vraiment mis la main à la pâte avec plaisir. Et il nous donnait évidemment en même temps suffisamment de temps libre, comme je disais, pour faire des modèles d'étoiles et aussi pour prendre des cours. Près de ce centre, il y avait l'Université de La Plata, et là, il y avait des astronomes. Donc, continuer à se former. Mais surtout, lorsque nous étions en train de finaliser ce radiotélescope, notre professeur, qui s'appelait Carlos Wasowski, qui avait de très bons contacts internationaux, a invité vraiment des astronomes de très très haut niveau, de l'Australie, de la Hollande, des États-Unis, pour l'inauguration et pour passer un mois avec nous, et aussi nous donner des cours et apprendre à nous connaître. Et nous avons eu de très bons rapports avec eux. Et l'un d'entre eux était professeur à Harvard. Et c'est ce qui a fait que mon mari et moi, nous avons demandé des bourses pour l'université de Harvard. Mais on a fait ça, vous savez, comme on jette une bouteille à la mer.
Vous avez essayé, ça a marché.
On n'y croyait absolument pas. Et en parallèle, nous avons essayé de nous marier. Et nous avons loué un appartement, acheté tout ce qu'il fallait pour notre appartement. Et le soir de notre mariage, nous avons reçu l'acceptation.
Ah, alors ça, c'est assez incroyable.
Voilà, donc c'était à la fois une bonne nouvelle, oui. Et puis c'était idiot, parce qu'on n'aurait jamais dû acheter tout, on avait tout installé. Enfin, évidemment, on a quitté l'appartement au bout de 6 mois, et on est parti sans rien à Harvard. C'était évidemment une chance unique. Et donc, en fait, mes études, non, je ne les ai pas faites en Californie, je les ai faites à Harvard, qui est donc près de Boston. Et c'était un doctorat de 5 ans. Mon mari et moi, en parallèle, nous avons tous les deux fini notre doctorat en 5 ans.
Mais la vie entre Buenos Aires et Boston devait être quand même radicalement différente.
Oui, tout à fait. Et en plus, moi, à Buenos Aires, j'avais été élevée dans la culture française. Disons, j'étais préparée pour la culture française et j'ai découvert une troisième culture aux États-Unis. Et je peux dire deux, puisqu'ensuite j'étais en Californie et que franchement, vous savez, les deux côtes aux États-Unis, c'est deux cultures totalement différentes. Hein. Nous avons beaucoup apprécié, en fait, les 8 ans que nous avons passés aux États-Unis, les 5 à Harvard, donc dans la petite ville qui s'appelle Cambridge, à côté de Boston, dans une ambiance très culturelle et évidemment avec d'excellentes facilités d'études. Et en plus, en ce qui me concerne, je ne trouvais pas non plus à Harvard le professeur qui me propose le type de sujet que je souhaitais faire. Donc, j'ai en plus rajouté une autre université. J'ai été faire ma thèse avec un professeur de Princeton, qui est donc près de New York, dans le New Jersey. Donc, j'étais un peu à cheval entre Harvard et Princeton. Voilà, j'ai fait une thèse théorique.
Qui a eu beaucoup de succès, c'était la propagation des rayonnements cosmiques, c'est ça?
Exactement.
Suite à cette publication de thèse, vous avez eu beaucoup de retours, j'imagine, de professeurs?
J'ai surtout, là aussi, avec beaucoup d'étonnement, quand nous étions en train de finir notre thèse, il fallait évidemment chercher le poste suivant. Je me souviens, nous avons écrit à 10 endroits. De nos jours, les gens écrivent à 100 endroits, mais à l'époque, ou même 8 peut-être. Et je crois que 7 m'ont proposé un poste, ce qui était quand même tout à fait inattendu. Et sur les 7, il y avait The California Institute of Technology, Caltech, donc en Californie, qui était à l'époque, sans contredit, et peut-être encore maintenant d'ailleurs, le meilleur centre d'astronomie au monde. Et là aussi, on avait écrit, pareil, comme on jette une bouteille à la mer, c'est-à-dire on écrit à des endroits où on pense avoir un poste, et puis au meilleur. Et en plus, mon mari a obtenu un poste aussi, donc nous avons pu aller tous les deux à Caltech.
C'est la question que j'allais vous poser, vous avez pu faire à chaque fois les choses en parallèle?
Oui, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance de ce point de vue-là dans notre vie. On a très bien pu débrouiller nos deux carrières. À Caltech, on s'est retrouvés donc aussi de nouveau dans le même département. Au début, ils nous ont mis dans le même bureau, mais nous n'avons pas voulu. Et donc, moi, j'arrivais avec mon bagage de théoricienne. Donc, à l'époque, j'étais une pure théoricienne. Je travaillais, en tant que postdoc, on avait un sponsor. Mm-hmm. Et c'était un scientifique remarquable qui s'appelle Peter Goldreich. Et qui avait travaillé dans de nombreux sujets et était lui aussi à la recherche d'un nouveau sujet. Donc en réalité, pratiquement toutes les semaines, nous évoquions un nouveau sujet. J'ai passé en revue toute l'astrophysique théorique avec lui. Et la vérité, c'est que finalement, nous n'avons rien fait ensemble. Il a continué un peu ses recherches de son côté et moi des miennes. Mais par contre, j'ai acquis une base générale absolument extraordinaire et dans des conditions uniques. Sinon, j'ai travaillé plutôt sur les rayons cosmiques d'une part. D'autre part, j'avais déjà commencé à Harvard et j'ai continué en Californie des travaux sur l'espace interstellaire en collaboration avec mon mari, qui faisait appel à la radioastronomie, dans les supernovas, les nuages froids dans le milieu interstellaire. Je me suis aussi un peu rapprochée des gens qui travaillaient dans l'astronomie infrarouge, parce que pour le milieu interstellaire, moi, je faisais les rayons cosmiques, qui sont aussi, donc, dans l'espace interstellaire, une composante qui contient un tiers de l'énergie, même si c'est sous la forme d'un très petit nombre de particules. Ensuite, l'autre tiers, il est dans le gaz. Et donc, c'est ce gaz que j'étudie avec mon mari. Mais ce gaz, il est mélangé avec des poussières qui émettent de rayonnements infrarouges. Et donc, pour en savoir plus, j'ai beaucoup fréquenté les groupes infrarouges de Caltech et j'ai acquis de bonnes bases aussi en astronomie infrarouge. Donc, ceci pendant 3 ans. Et quand nous arrivions au terme de notre séjour, évidemment, il fallait chercher le poste suivant.
C'était tous les 4 ans, c'est ça?
À peu près? En réalité, on aurait pu rester plus longtemps. C'est-à-dire, le poste que nous avions, au départ, c'était 2 ans, il nous avait donné 2 ans de plus.
D'accord.
Mais nous avons fini par partir au bout de la 3e année, parce que, de toute façon, nous avions des problèmes de visa. Nous étions entrés avec des visas d'étudiants, et c'était particulièrement compliqué pour mon mari. Il y avait un quota pour les Argentins. Mon mari est Argentin.
Alors que vous aviez la nationalité française.
Je n'ai jamais eu que la nationalité française. Et pour les Français, les quotas n'étaient pas très plats, mais pour les Argentins, ils l'étaient. Mm-hmm. On devait quitter les États-Unis pour 1 an ou 2. Et puis, on avait peut-être envie aussi de passer à une nouvelle étape. Mais à l'époque, notre intention était de rentrer en Argentine. Maintenant, en Argentine, tout ceci nous amène à l'année 1973. Et c'était une période importante en Argentine, pour ceux qui ont suivi, où le général Perón, qui avait été déchu, je dirais, en 1955, et s'était réfugié en Espagne, en 1973, il avait réussi à changer la situation suffisamment en Argentine pour pouvoir être réélu président. Et il est arrivé, juste comme nous étions là, en train de discuter pour voir quel poste on pourrait avoir en Argentine. Et à son arrivée, il y a eu des émeutes à l'aéroport. On a bien vu que la situation devenait très, très difficile. Nous avons vu aussi que nos collègues étaient tellement pris dans la politique que la science était devenue très secondaire.
Il n'y avait plus d'indépendance, j'imagine, aussi, entre la science et le gouvernement.
Non. C'est-à-dire, les années où j'étais étudiante ont été des rares années de pure démocratie en Argentine. Et juste quand nous sommes partis, ça a coïncidé, on est parti 1 mois après, un nouveau coup d'État et de nouveaux gouvernements militaires. Entre-temps, la démocratie était revenue, et là, c'était démocratique, puisque l'élection de Peyron avait été démocratique. Mais il y avait, je dirais que les scientifiques voulaient tellement faire des choses qui seraient utiles au pays sans se rendre compte de ce qu'elles pouvaient être, qu'ils étaient assez déboussolés, ils ne savaient pas très bien où aller. Et en même temps, on voyait que la situation allait devenir très très difficile. Parce que tout le monde voulait être péroniste, mais en fait, ce péronisme était très fragmenté et on voyait que ça allait amener des luttes terribles internes.
Vous avez fait donc le choix de partir ?
Donc, on a décidé que ce n'était vraiment pas une bonne idée de rentrer. Et quand nous sommes rentrés en Californie, nous avions déjà vu passer quelques Français. Je dirais que le premier Français avec lequel j'avais eu des contacts, c'était Hubert Reeves, curieusement, avec qui je suis amie depuis très très longtemps. Et qui était l'un de ceux qui m'avait proposé un poste déjà 3 années auparavant. Mais Hubert travaillait au CEA Saclay.
Oui.
Et donc la directrice de son laboratoire, Lydie Koch, est aussi passée à Caltech. Je l'avais aussi rencontrée. Et donc, entre Hubert et Lydie, ils ont arrangé un poste pour moi au CEA. Cependant que des radioastronomes qui étaient passés également ont arrangé un poste pour mon mari, plutôt dans le cadre des universités et du CNRS. Donc comme ça, c'était bien, on s'est retrouvés tous les deux au même endroit, mais pas dans le même organisme, ce qui est plus agréable. Et nous avons pu faire nos carrières en France, voilà.
Et vous êtes donc arrivée en France en 1974.
Voilà. Donc j'étais avec un passeport français. J'étais passée en France plutôt comme touriste, pas tellement de fois, peut-être 3 fois, et jamais pour plus d'un mois. Et donc c'était un peu bizarre, parce que j'étais une française entre guillemets, mais pas tout à fait française. Enfin, je ne savais plus ce que j'étais. Je ne sais jamais ce que je suis. Je dis que je suis astronome. Je ne sais pas. Mais ceci dit, malgré tout, évidemment, comme maintenant je suis restée 25 ans en France, c'est quand même la France qui gagne de loin.
Et pour votre mari qui était argentin, le fait de partir de son pays à un moment difficile, je suppose que ça devait être une décision qui n'était pas évidente, à moins que, comme vous, il avait pris cette habitude de s'installer un peu partout, dans divers pays.
Eh bien, mon mari s'est accommodé de la France instantanément. C'est ça qui est amusant. Quand nous sommes arrivés en France, en fait, il ne parlait même pas bien le français, parce que lui et moi, nous parlons espagnol entre nous. Et évidemment, aux États-Unis, l'autre langue, c'était l'anglais. Donc, il avait beaucoup entendu le français chez moi, chez mes parents et tout, mais il n'avait pas étudié le français comme en son enfance, mais il est très doué pour les langues. Et en plus, nous avions un enfant d'un an et demi. Et alors, il ne pouvait pas permettre que notre fils parle français avant lui.
Donc, il s'est dépêché d'apprendre.
Donc, ils l'ont appris en parallèle. Et bien entendu, mon mari a dépassé mon fils. Et s'est très, très vite débrouillé. Et bon, il parle, il a un petit accent, mais franchement, pas beaucoup. Il parle vraiment très bien le français aujourd'hui. Et il a tout de suite beaucoup aimé l'ambiance en France. Il s'est instantanément bien retrouvé. Moi, par contre, honnêtement, j'ai eu plus de mal. J'ai eu beaucoup de mal. D'une part, je regrettais l'ambiance scientifique effervescente des États-Unis, que je ne retrouvais pas à l'époque en France, mais je trouve que les choses ont bien changé et que maintenant, on est bien
mais
en France.
Mais parce que vous y avez participé.
Non, j'ai joué mon petit rôle, mais oui, j'ai participé. Après tout, j'accepte ça. Mais je dirais qu'on a été très nombreux à y participer et que les choses ont vraiment beaucoup, beaucoup changé. Donc à l'époque, le contraste était quand même très fort. Et puis, j'ai gardé une nostalgie très forte pour l'Argentine, curieusement, beaucoup plus que mon mari pendant très longtemps.
Je vous propose de marquer une première courte pause, Catherine Cizarski. Dans la deuxième partie, nous reviendrons en France.
Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie de Catherine Cizarski. Dans cette deuxième partie d'émission, Catherine Cizarski, nous sommes arrivés en France, au CEA. Donc de 1974 à 1985, vous êtes une scientifique libre, c'est ce que vous me disiez pendant cette pause.
Oui, j'étais donc essentiellement une théoricienne. Je travaillais sur les rayons cosmiques, sur les rayons gamma qui sont émis par les rayons cosmiques à cause des collisions avec l'espace interstellaire, ce qui m'a amené aussi à travailler sur le gaz interstellaire, aussi un petit peu son émission en infrarouge, et pas mal d'autres sujets, l'accélération des rayons cosmiques, etc.
Et c'est là que vous allez prendre donc de grandes responsabilités, et pendant de longues années.
Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que vers les années 82-83, j'ai eu la sensation d'être arrivée au bout des recherches que j'étais en train de faire par manque de données. Parce que dans ces sujets-là, il y avait un grand vide de données, qui a d'ailleurs duré plusieurs années, et les résultats arrivent maintenant. Du coup, il arrive un moment où vous pouvez faire de la théorie et faire de la théorie, mais vous commencez à avoir l'impression que vous êtes en train de réinventer un monde qui est peut-être imaginaire. Et moi, je ne voulais pas faire ça, et donc je pensais que le moment était venu de changer de sujet. Et j'ai fait un changement complet, c'est-à-dire j'étais au contraire dans un sujet où je savais qu'on pouvait avoir énormément de données complètement nouvelles, relativement rapidement. Et donc je me suis tournée vers l'astronomie infrarouge. Et dans l'astronomie infrarouge, pas seulement sur regarder des données obtenues par d'autres, mais je me suis même lancée dans la fabrication d'un instrument pour un satellite.
Parce que la technologie va en même temps que l'obtention de ces données.
Absolument. C'est-à-dire, si l'astronomie a une explosion de connaissances en ce moment, c'est parce qu'elle a bien su tirer parti des énormes projets de la technologie. Et ce, à toutes les longueurs d'onde.
Vous parliez d'effervescence aux États-Unis. Est-ce que justement, à cette époque-là, en France, commence cette effervescence dans le domaine de l'astronomie en France ? Ou en Europe, en tout cas ?
Je pense que pas encore, pas tellement à ce moment-là. C'est vraiment plutôt dans les années 90 et 2000 que la France s'est retrouvée dans une très très bonne position où elle est actuellement.
En 1985, vous occupez un poste important au CEA, qui est celui de directeur scientifique.
Ça s'appelait le service d'astrophysique. C'est en fait le groupe qui, au CEA, travaille en astrophysique et qui fait essentiellement de l'astrophysique spatiale. C'est-à-dire que c'est un groupe qui à la fois développe directement des instruments spatiaux qui seront placés à bord de satellites, mais qui aussi s'occupe de recevoir les données, de les réduire et de les interpréter en termes de modèles. Il essaye de faire toute la chaîne. Et je dois dire que bon, c'est ce qu'on faisait déjà là, mais ça n'a fait que croître et embellir, et maintenant ça marche fantastiquement bien. Donc dans ces débuts d'années 80, se dessinait pour l'Europe la possibilité d'un satellite infrarouge, pour les États-Unis aussi. Mais moi, je voyais que pour la première fois, l'Europe pourrait arriver avant les États-Unis dans un sujet qui était, de mon point de vue, mais je pense beaucoup de gens pensaient comme moi, le plus prometteur en astrophysique à cette période. Et donc, je me suis attachée au développement de ce satellite qui s'appelle ISO, Infrared Space Observatory, de l'Agence spatiale européenne. Et en particulier, il y avait 4 instruments à bord. Donc, un de ces 4 instruments, ISOCAM, la caméra, qui permettrait de faire des images. Pourquoi fallait-il sortir de l'atmosphère ? Parce que le rayonnement infrarouge est partiellement absorbé par l'atmosphère. Et aussi parce que, sur Terre, nous émettons tous du rayonnement infrarouge, nous, les meubles, la Terre. Et donc, c'est comme faire de l'astronomie en plein jour. Donc, ISO est allé en dehors de l'atmosphère, plus de problèmes d'absorption du rayonnement. Et en plus, il était refroidi proche du zéro absolu, de façon de ne pas avoir non plus d'émission de rayonnement infrarouge. Parce que c'est la température ambiante qui fait que nous émettions du rayonnement infrarouge. Donc c'était une opportunité extraordinaire de faire d'importantes découvertes en astronomie. Parce que c'est dans l'infrarouge que l'on peut observer des régions très importantes dans l'univers, qui sont les régions dans lesquelles se forment les étoiles. Les étoiles se forment au sein de ces nuages interstellaires dont je parlais tout à l'heure. Dans ma jeunesse, j'avais observé des nuages diffus avec mon mari en radioastronomie. Mais là, je m'intéressais à des nuages très denses. Parce que c'est dans ces nuages très denses que se forment les étoiles, sous l'effet de la gravité. Simplement la matière attirant la matière. Et ces nuages très denses sont formés de gaz avec aussi des petits grains de poussière. Et les grains de poussière absorbent le rayonnement, une bonne partie du rayonnement lumineux, et ne sort que l'infrarouge. Et c'est pour ça qu'il faut les observer dans l'infrarouge. Ces nuages sont aussi relativement froids, donc on observe dans l'infrarouge un univers obscur et froid.
Donc c'est vous qui avez contribué à l'élaboration d'ISOCAM du début jusqu'à la fin ?
Oui, j'ai dirigé donc la construction de cette caméra. Et c'est aussi à cette époque que j'ai pris la direction du service astrophysique, ce qui me permettait de pouvoir avoir les moyens nécessaires pour développer cet instrument. Et ça dure très longtemps, parce qu'un instrument spatial, ça prend... L'instrument a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne en janvier 1985, et nous avons pu livrer cet instrument pour le satellite en 1993. Donc, vous vous rendez compte, ça fait beaucoup, beaucoup d'années de travail.
Et alors, justement, quels ont été les résultats de cette caméra? Qu'est-ce qui en est ressorti?
Le satellite a volé de 95 à 98. Ça ne pouvait pas durer plus longtemps, oui, parce que c'était une bouteille thermos d'hélium pour rester très froid, et au bout de 3 ans et quelques, tout l'hélium était parti. Ça a permis effectivement d'étudier les régions de formation d'étoiles dans notre galaxie, de voir combien d'étoiles, de quelle masse se formaient au sein de nuages sombres. Mais moi, la partie que je trouvais la plus intéressante, et celle où je me suis impliquée le plus, c'est l'étude de la formation d'étoiles dans d'autres galaxies. Parce qu'il y avait eu un premier satellite infrarouge astronomique en 1983 qui avait fait un relevé complet du ciel, mais sans aller très profond. Nous, on pouvait aller beaucoup plus profond. Et qui avait découvert qu'il existait, à peu près dans l'environnement de notre galaxie, un nouveau type de galaxie qui était beaucoup plus brillante dans l'infrarouge que dans l'optique. On appelle ça les galaxies lumineuses dans l'infrarouge, et puis d'autres même ultra-lumineuses dans l'infrarouge. Avec ISOCAM, quand on était beaucoup plus sensible, on pouvait aller chercher ce type d'objets plus loin. Parce qu'évidemment, quand ils sont plus loin, nous les voyons comme plus faibles. Et nous avons pu démontrer que ce type d'objet était beaucoup plus fréquent dans l'univers quand l'univers était plus jeune que maintenant, quand il avait, la moitié de son âge, et encore plus quand il était encore plus jeune. Et ceci est dû à une formation d'étoiles très accrue. C'est-à-dire que notre galaxie, elle forme poussivement en ce moment, notre galaxie, la Voie lactée, à peu près sous forme d'étoiles, vous avez un nouveau soleil par an. Et ces galaxies, elles peuvent faire 50, 100 et parfois même 1000 fois plus de formation d'étoiles que notre galaxie.
Ah oui, donc plus on remonte dans le temps, plus l'activité est importante.
Plus on trouve des galaxies avec une activité très importante. Et ces résultats ont été ensuite confirmés par le nouveau satellite infrarouge encore plus avancé qui vole en ce moment, qui s'appelle Spitzer, qui est américain et qui permet d'aller encore plus loin qu'ISOCAM chaque fois. Et c'est tout à fait confirmé. Et on trouve que plus on recule et plus les étoiles, au lieu de se former très tranquillement au sein de galaxies comme chez nous, sous forme de grandes flambées, comme des grandes explosions de formation d'étoiles, plutôt dans les régions centrales des galaxies.
Revenons sur Terre, si vous voulez bien. Malheureusement, nous devons avancer au cours de cette émission. Oui. Arrivons, si vous voulez bien, à l'ESO, l'European Organization for Astronomical Research. C'est en Allemagne, c'est à Munich. C'est en 99, vous acceptez de prendre la direction de l'ESO. Est-ce que c'était une décision facile de quitter la France pour partir en Allemagne?
Oui, c'était une décision facile, ayant vécu dans plusieurs pays et ayant nos enfants ayant grandi suffisamment pour qu'on puisse partir. Mon mari et moi étions très intéressés par une nouvelle expérience. De 94 à 99, j'avais pris au CEA la tête de la direction des sciences de la matière, qui est toute la recherche fondamentale au CEA, c'est-à-dire que je dirigeais à la fois toute la physique et la chimie. Et ça m'a donné une très forte expérience de gestion et d'ouverture de politique internationale. Et j'ai senti que ça m'avait vraiment très bien préparé pour diriger l'ESO. Donc, quand ce poste s'est ouvert à l'ESO et qu'on m'a demandé de m'y présenter, je l'ai fait, j'ai été sélectionnée, et j'étais très contente de le faire. Alors, il y avait une deuxième raison pour laquelle j'étais contente, c'est que l'ESO, depuis l'Allemagne, dirige des observatoires qui sont en fait au Chili. Et donc, pour la première fois dans ma carrière, j'avais de fortes raisons professionnelles pour être amenée à retourner régulièrement en Amérique du Sud. Et j'avoue que ça me plaisait beaucoup.
De partir de temps en temps au Chili.
Voilà. Et donc, effectivement, j'ai dirigé l'ESO. J'étais nommée pour 5 ans. On m'a proposé un deuxième mandat. Et j'ai décidé de n'en faire qu'une partie parce que je trouvais que ça suffisait. Moi, je pense qu'il faut et du changement pour moi et du changement pour les autres. Pendant toutes ces années, je suis allée au Chili 4 fois par an. Et j'ai évidemment eu des relations particulièrement bonnes avec nos employés chiliens, parce que l'ESO au Chili a une majorité d'employés chiliens. Oui. Ils étaient tout contents d'avoir une quasi-sud-américaine à leur tête. Et ça a été une expérience absolument formidable. Et puis il faut dire que 2 ans avant, j'avais été membre d'un comité qui devait évaluer l'ESO, ce qui m'avait conduit à aller regarder l'observatoire qui était en construction à l'époque sur le mont Paranal, avec le VLT, le Very Large Telescope, 4 télescopes de 8 mètres. Et j'avais été totalement éblouie, séduite, je peux dire, par cet observatoire. Et donc, j'avais vraiment très envie d'y retourner et de m'en occuper.
Et alors justement, quand vous êtes arrivée à l'ESO, il y avait déjà la construction de ces 4 télescopes, du Very Large Telescope. Donc, je suppose que vous avez poursuivi la construction, vous avez suivi de près, puisque vous avez la direction de l'ESO.
Alors, j'ai eu la chance d'arriver quelques mois après l'inauguration du premier télescope. Donc, il y avait en parallèle déjà la science qui commençait, et la construction des autres télescopes, qui s'est d'ailleurs achevée assez rapidement. Donc on peut vraiment dire que la construction, c'est pas vraiment moi, c'est certainement mon prédécesseur, Riccardo Giacconi, qui a présidé à la construction du VLT. Moi, par contre, j'ai présidé à sa mise en route d'un point de vue scientifique, à le modèle d'exploitation que nous avons utilisé, la mise en place d'instruments qui n'ont cessé d'arriver, et d'une partie d'interférométrie faite par de plus petits télescopes, et puis aussi maintenant des télescopes intermédiaires pour faire des grands relevés dans le ciel, etc.
L'ESO, c'est une coopération de plusieurs États européens. Alors, je suppose que le fait que vous ayez un côté pluriculturel a joué justement aussi dans ce lien-là, pluriculturel au sein même de l'ESO.
Je pense que oui, mais aussi mon expérience politique que j'avais donc un peu acquise au CEA et oui. Que j'ai pu parfaire là, m'a permis de négocier assez rapidement pour amener plus de pays à devenir membres de l'ESO, et aussi pour faire accepter aux pays membres actuels l'arrivée de nouveaux membres. Et donc l'ESO, qui avait 8 membres quand je suis arrivée, en avait 13 quand je suis partie, et probablement sur le point d'en acquérir un 14e, c'est une fin de négociation à laquelle j'avais aussi présidé. Et d'ailleurs, cette semaine, on va faire une présentation là-dessus en Autriche, il s'agit de l'Autriche.
Et justement, comment vous y êtes pris pour recueillir de nouveaux États? Parce que justement, recueillir, c'est bien, mais il y a aussi, je suppose, un chèque aussi à la clé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une participation financière. Alors, quels étaient vos atouts? Quels étaient vos arguments?
Non, il y a vraiment de gros chèques. Et donc, ça a permis une forte augmentation du budget de l'ESO. Et donc, ça a permis de rajouter après le VLT d'autres grands projets. Le projet ALMA, dont j'ai lancé la construction, et le projet ELT, dont j'ai lancé les études, hein, l'Extremely Large Telescope. Je n'aurais pas pu faire ça si on était resté avec nos 8 pays membres. Alors, comment j'ai fait? Honnêtement, l'argument le plus important, c'était quand même le succès du VLT. Et encore une fois, c'est pas grâce à moi, c'est les gens qui l'ont fait, c'est les excellentes équipes de l'ESO. Nous avons pu démontrer et faire admettre par le monde entier que nous détenions le meilleur observatoire du monde. Et là, c'était un peu plus facile de convaincre les gouvernements de vouloir participer à cette aventure extraordinaire. Et puis évidemment, ALMA, donc, que nous construisons maintenant, qui est un grand observatoire, mais pas dans le visible comme, ou l'infrarouge comme le VLT, mais à des ondes plus longues dans les micro-ondes submillimétriques, qui est en construction à une très haute altitude, à 5000 mètres d'altitude, sur l'altiplano, dans les Andes aussi, toujours au Chili. Sera un projet mondial, puisque là, on est directement en collaboration avec les Américains, avec les Japonais et d'autres pays. Et ce sera un instrument unique à niveau mondial.
Et dont la fin de construction est prévue pour 2015
Oui, en fait, même avant, 2012-2013.
2012-2013. Oui. Vous avez également parlé de l'ELT, l'Extremely Large Telescope. Alors, Very Large Telescope, Extremely Large Telescope. Quel est l'apport supplémentaire de l'ELT?
Quand on fait de l'astronomie et qu'on veut voir qu'on veut être très sensible, on veut recevoir le plus de lumière possible. Mm-hmm. Alors si vous voulez par exemple ramasser de l'eau de pluie et vous mettez un seau, vous recevez une certaine quantité. Si à la place d'un seau vous mettez une piscine, évidemment vous en recevez beaucoup plus. De la même façon, si vous mettez un télescope beaucoup plus grand, il recueille beaucoup plus des photons qui sont émis par des objets lointains ou qui paraissent faibles vu d'ici. Donc, c'est évident que si vous voulez aller vers un univers plus lointain ou vers des objets intrinsèquement faibles, comme par exemple des planètes extrasolaires, vous avez besoin d'avoir un télescope le plus grand possible. Donc ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est si vous voulez décomposer cette lumière, plus vous pouvez la décomposer finement et plus vous pouvez apprendre des choses sur l'objet que vous étudiez. Donc faire de la spectrométrie à très haute résolution. Et donc là aussi, il vous faut beaucoup de photons, donc un grand télescope. Et puis finalement, la résolution angulaire dans le ciel dépend de la taille du télescope. Plus ce télescope est grand, plus vous pouvez voir petit dans le ciel. Même s'il faut au passage faire des corrections pour pouvoir se débarrasser des des effets de la turbulence dans l'atmosphère en faisant ce qu'on appelle de l'optique adaptative.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Catherine Cesarski, dans la troisième partie de l'émission. Nous parlerons bien sûr de l'Union astronomique internationale et puis bien sûr nous parlerons de l'année internationale de l'astronomie, année internationale 2009. A tout de suite.
Canal Academy vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission, elle est en libre écoute sur Canal Academy.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie de Catherine Cesarski. Dans cette troisième partie, Catherine Cesarski, nous allons parler de votre rôle pour commencer. Rapidement, votre rôle de présidente de l'Union Astronomique Internationale. En quoi consiste le travail de présider l'Union Astronomique Internationale ?
L'Union Astronomique Internationale regroupe presque 10 000 astronomes professionnels du monde entier. En fait, 74 pays, je pense. Donc, ce n'est pas vraiment le monde entier. Il y a encore des pays qu'on pourrait accréter, mais qui n'ont pas suffisamment d'astronomes pour pouvoir être membres. Et existe depuis presque 90 ans. Et je crois que je suis la troisième présidente française.
C'est 90 ans. Vous êtes la première femme,
je suis la première femme, oui.
Il faut le préciser.
Oui. Ces présidences durent 3 ans. Pendant la guerre, ça dure un peu plus, mais bon. Son but est vraiment de promouvoir l'astronomie, et en particulier la coopération internationale en astronomie. De aider à la défense du ciel. Vous savez qu'il faut vraiment défendre le ciel contre les pollutions diverses. Tant dans le visible, c'est très important que dans toutes les régions où il y a des observatoires, il n'y ait pas des lumières proches. Et aussi en radioastronomie. La radioastronomie devient de plus en plus difficile à cause, évidemment, de notre grande utilisation d'ondes radio pour tout type d'autres choses. Donc, nous aidons évidemment à ce genre de choses. Et puis, nous essayons donc, nous avons deux grandes activités principales. L'une, c'est d'organiser des réunions scientifiques sur des sujets donnés. On en organise 9 par an. Et tous les 3 ans, nous avons une très grande réunion, ce qu'on appelle l'Assemblée Générale. Oui. Et là, on réunit, mettons, 2500, 3000 astronomes. Et à l'intérieur de cette réunion, il y a de nouveau 6 réunions séparées sur des sujets définis. Mais il y a également quelques conférences plus générales, et c'est une occasion pour tous les astronomes de se voir et d'entendre parler d'autre chose que de sa propre sous-discipline.
Mais vous avez un pouvoir décisionnel ou seulement valeur de conseil ?
Il n'y a pas vraiment un pouvoir décisionnel, on est plutôt à essayer de diriger le mouvement. On est un petit peu comme un président de conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il y a un secrétaire général qui joue le rôle du directeur et celui qui fait le travail de tous les jours, et on est plutôt pour le conseiller, le pousser dans les bonnes directions. On a tout un comité exécutif, et c'est au sein de ce comité que l'on prend des décisions, c'est pas le président tout seul.
Parlons, si vous le voulez bien, et en plus c'est un sujet qui vous tient à cœur, de l'année internationale de l'astronomie. C'est en 2009, alors vous dirigez, vous faites la coopération internationale, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette préparation de cette année internationale, et pourquoi elle existe cette année internationale ?
Dès 2003, à l'Assemblée générale de 2003, au sein de l'IAU, nous avons pris la décision de tenter de promouvoir 2009 comme année internationale de l'astronomie, parce que 2009, ça fait 400 ans depuis que Galilée a tourné son télescope vers le ciel. Il a regardé la Lune et il a découvert que la Lune, eh bien, en fait, elle avait des montagnes, ce n'était pas quelque chose qui était découpé, qu'elle ne brillait pas de sa propre lumière. Ça a été un premier pas vers la compréhension des cieux.
Donc c'est un anniversaire.
Donc c'est l'anniversaire. On peut dire qu'en même temps, on peut fêter des anniversaires liés à Kepler, liés à d'autres importants résultats astrophysiques. Mais nous, on est parti principalement de Galilée. Nous avons souhaité que cette année ne soit pas une année pour les astronomes uniquement, c'est-à-dire les astronomes Je vous l'ai dit tout à l'heure, les astronomes, nous sommes en ce moment, toutes les années sont nos années, parce que nous sommes dans une explosion de connaissances extraordinaires. Ce que nous souhaitons dans cette année, c'est que le reste du monde, ceux qui ne sont pas encore touchés par la grâce de l'astronomie, le soient pour la première fois. L'idéal serait qu'en 2009, toute personne sur Terre, au moins une fois dans cette année, entende parler d'astronomie. Si possible, puisse regarder même dans un petit télescope pour regarder le ciel, en particulier regarder la Lune directement, et entendre parler un petit peu des découvertes actuelles de l'astronomie.
Donc ouvrir au grand public.
Ouvrir au grand public, et pas seulement le grand public dans nos pays développés, mais aussi tous ces pays où il n'y a pas encore d'astronomie.
Alors vous qui faites toute la coordination internationale, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez pouvoir proposer dans les pays qui ne sont pas forcément très au fait de la question sur l'astronomie, par exemple ?
Nous avons créé donc un groupe qui suit cela de près, et dans lequel nous avons essayé d'établir dans chaque pays un point de contact. Nous disons SPOC, Single Point of Contact, un point de contact, parce que sinon ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous avons déjà 110 pays dans lesquels nous avons un point de contact, alors qu'il n'y a que 66 pays qui adhèrent directement à l'Union astronomique internationale, pour vous montrer que nous sommes allés bien au-delà de notre public habituel. Et peut-être que nous en continuerons à en avoir, et peut-être que nous aurons pratiquement tous les pays du monde. Dans les pays où il y a des astronomes professionnels, ce single point of contact est toujours un astronome professionnel. Dans ceux où il n'y en a pas du tout, c'est souvent soit un physicien, soit même un astronome amateur. Nous proposons un certain nombre de programmes. Chaque pays va faire son programme comme il veut. Nous n'imposons absolument pas que chaque pays fasse la même chose.
Il n'y a pas une ligne éditoriale.
C'est surtout des activités locales, d'autant plus qu'il est évidemment très important que chaque pays le fasse dans sa propre langue. Mais nous, ce qu'on essaye, c'est de faciliter à chacun des groupes dans les pays les activités qu'ils vont faire en proposant des choses qui peuvent servir à tout le monde.
Et avec, je suppose, aussi des moyens élémentaires pour pouvoir, ne serait-ce que voir la Lune à travers un télescope.
Donc, par exemple, nous avons développé un modèle de télescope qui pourrait être développé et être vraiment très, très, très bon marché. J'espère, ce soir, nous avons une téléconférence, nous avons une fois par mois une téléconférence de notre groupe organisateur, voir enfin combien ça va coûter et commencer à voir quelles sont les chances que divers pays en commandent de grandes quantités pour les distribuer dans les écoles, dans les rues, etc. Mais là, je parle de coûts de quelques euros, hein.
Ah oui, donc on est vraiment dans l'accès à la connaissance pour tous.
Pour grand public.
Donc, pour grand public.
Nous avons comme ça, en fait, nous avons 11 programmes que nous appelons les pierres angulaires, mm-hmm. mais chaque pays peut choisir d'en prendre quelques-uns ou pas. C'est ce petit télescope qu'on appelle le galiléoscope, qui ressemble effectivement au petit télescope de Galilée. Mais nous en avons beaucoup d'autres. Nous en avons un qui consiste à préparer tous les éléments de ce qui pourrait être une très belle exposition d'images astronomiques. De façon que si dans n'importe quel pays, un de nos SPOC trouve la possibilité de faire une exposition, il n'est pas besoin aussi de se mettre à recueillir les images, de faire les descriptions, etc. Nous, on propose un set d'images avec toutes les descriptions.
Vous faites un packaging spécial expo.
Et ceci dit, nous supposons que chaque pays va enlever certaines choses et va par contre ajouter des choses qui sont relatives à ce pays, ses propres observatoires,
oui,
etc.
Oui.
Mais nous leur facilitons la tâche. Et ça, par exemple, ça a beaucoup de succès et c'est repris dans énormément de pays. Nous avons des projets pour promouvoir les femmes en astronomie. Donc, on l'appelle « She's an astronomer ». Et donc, là, ça va être plutôt quelque chose qui se passera sur le web pour bien montrer à toutes les jeunes filles qui voudront regarder ça que l'astronomie, c'est tout à fait une profession pour les femmes.
Vous dites ça avec le grand sourire.
En faisant parler des femmes astronomes et quelques hommes astronomes également. Nous en avons un autre sur la vie des astronomes, qui va aussi donner lieu à un ensemble de textes et d'images sur le web, mais aussi à un livre, finalement.
Oui.
Nous en avons donc sur comment aider les pays sous-développés, le développement de l'astronomie dans les pays qui n'en ont pas encore. Et ça, ça marche très bien, en particulier en Afrique, nous partons très fort là-dessus. Mais aussi dans d'autres pays. Je vous dis, moi, je reviens du Népal où j'étais.
C'est la question que j'allais vous poser, justement. Vous revenez du Népal, vous étiez au Caire. Je suppose que vous faisiez des conférences là-bas. Quel était votre rôle ?
Au Népal, c'était dans le cadre d'une deuxième activité importante qu'il y a eu, j'ai dit qu'une première, c'est organiser des réunions scientifiques.
Oui.
La deuxième, elle est tournée vers l'enseignement dans les pays qui n'ont pas encore d'astronomie. Mais un enseignement de niveau universitaire, c'est-à-dire le plus haut possible. Là, par exemple, on s'adressait le plus haut niveau pour au Népal, c'est master. Donc, on avait un groupe, une quarantaine d'étudiants qui avaient déjà un master en physique, en ingénierie, etc., qui enseignaient dans les universités et à qui nous donnions des bases et aussi des nouvelles en astronomie. Donc, nous étions un groupe dont trois Français à leur donner des cours. Donc là, j'ai donné une série de cours.
Et à ce moment-là, c'est vous qui venez, l'Union internationale, c'est vous qui vous déplacez avec vos propres deniers ou c'est l'université qui vous invite?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire
D'accord.
que là, l'UAI a payé une petite partie, et c'est quand même le Népal qui a payé la majeure partie, mm-hmm. y compris toutes mes dépenses.
Mais vous êtes quand même dans une démarche de vous investir vers l'extérieur.
Ben, c'est-à-dire que nous, on donne quand même, disons, notre travail et notre présence gratuitement. Au minimum, on donne ça. Je crois qu'on a donné une somme, effectivement, mais pas très importante. Et nous faisons des écoles dans d'autres pays qui durent plus longtemps, qui durent un mois, et qui sont pas seulement pour un pays, mais pour toute une région.
Quels sont vos projets là pour les mois à venir? Je suppose que vous avez un emploi du temps déjà bien chargé, avec déjà des mois où les jours sont déjà bien remplis. Où
oui.
est-ce que vous partez prochainement, par exemple?
Je pars cette semaine en Autriche. Je m'occupe d'un nouvel institut qui est en train d'être créé en Autriche depuis quelque temps déjà, et où aussi on va avoir une annonce sur. Possibilité que l'Autriche rejoigne les eaux.
Oui, c'est ce que vous
Donc,
disiez.
Donc, ces deux choses sont en même temps. Donc, je pars en Autriche mercredi soir. Je pars le mois prochain à Oslo parce que nous avons la réunion annuelle du comité exécutif de l'Union astronomique internationale qui se passe à Oslo cette fois-ci. Je pars tout de suite après aux États-Unis parce qu'il y a une réunion de la Société astronomique américaine à Saint-Louis. Et ils m'ont invité à faire une séance plénière, c'est-à-dire devant 1000 personnes, c'est des réunions très grandes, sur justement l'année internationale de l'astronomie, pour expliquer aux Américains qu'ils font ça très très fort à l'intérieur des États-Unis, mais pour qu'ils sachent ce qui se passe ailleurs dans le monde et pour qu'ils sachent qu'ils participent à une aventure internationale et pas uniquement américaine. Je suis très contente qu'ils m'aient donné une plénière pour ça, il y a très peu de plénières dans ces réunions. Donc je vais faire ça, mais je dois rentrer dardard parce qu'il y a une journée sur l'espace ici à très haut niveau. Il y aura François Fillon, Valérie Pécresse, deux jours après. Et en tant que présidente du CPS du CNES, je vais y participer. Bon, et ainsi de suite. Non, j'ai effectivement un emploi du temps totalement dément.
Et vous parlez pas de l'Argentine? Vous n'y revenez pas?
Cette année, non. Justement, cette année, je n'arriverai absolument pas à y aller.
Mais vous essayez d'y retourner.
Alors, l'année prochaine, nous aurons l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale à Rio de Janeiro. Et je suis présidente jusque-là. C'est aux Assemblées générales qu'on change de présidence. Donc, ma présidente s'arrête au mois d'août, à la fin de cette réunion de Rio de Janeiro. Et je pense tout de suite après à aller passer un peu de temps à Buenos Aires.
Voilà. Vous serez sur le bon continent. Merci beaucoup Catherine Cesarski de nous avoir rendu visite, de nous avoir accordé tout ce temps parce que voilà, comme vous nous l'avez dit, vous avez un emploi du temps très chargé et vous partez un peu aux quatre coins du globe. Alors merci de nous avoir rendu visite. On espère vous entendre très prochainement justement sur cette année internationale de l'astronomie 2009. J'espère qu'on va en entendre beaucoup parler et puis bientôt nous vous retrouverons certainement pour la réception sous la coupole.
Exactement.
À bientôt, au revoir.
En juin. Merci.